de la déstabilisation de cet ordre du monde qui nous assure nos privilèges, à la plupart d'entre nous.
Alors, ce qu'on voit effectivement, et qui d'une façon très cynique nous touche, c'est qu'on voit des cas de faim, de sous-nutrition dans les pays riches. Aux États-Unis, oui, par exemple, oui. Tout simplement, des cas de sous-nutrition se manifestent.
Il y a, je vous ai dit d'abord quelque chose de plus général, selon la Banque mondiale, hein, qui est insoupçonnable quand il est question de statistiques, pas quand il est question de sa politique, mais quand il est question de statistiques. Selon la Banque mondiale, 2,2 milliards de personnes sur la planète, l'immense majorité évidemment dans l'hémisphère sud, mais aussi ailleurs, hein, dans les pays du nord et de l'ouest, 2,2 milliards de personnes, le tiers de l'humanité, vit en dessous du minimum vital, n'a pas les revenus pour une vie décente, pour se mettre à l'abri de l'angoisse du lendemain. Ces gens-là ont ceci de particulier en plus, que dans le budget familial, la dépense alimentaire s'élève à 80-90%, tandis que chez nous, un ménage français paye 10 à 15%. Et quand le prix des denrées alimentaires explose, comme c'est le cas maintenant, mais explose vraiment, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, eh bien ces gens-là sont devant le néant. Je veux dire, ils n'ont simplement, objectivement, pas l'argent nécessaire pour se procurer. Donc le problème est un problème d'accès à la nourriture et pas un problème de production, d'abord. Un problème de production. Alors on peut se demander d'où vient cette explosion brusque des prix.
La tonne de riz thaïlandais a plus que doublé en un an, le blé plus 130%, le maïs 74%. Enfin, qu'est-ce qui a fait...
La tonne de riz thaïlandais est toujours free on board, comme on dit, c'est-à-dire sans les coûts de transport. Je prends le Sénégal, qui importe 80% de son alimentation. Le Sénégal, lui, il y a eu des émeutes. 80% est importé, surtout du riz. Et le Sénégal exporte des arachides en France... depuis les colonies, ça continue, pour faire des huiles végétales. Alors qu'il a une paysannerie formidable, qu'il a des terres, qu'il a des magnifiques cultures paysannes, ancestrales, de très grandes traditions et de très grandes compétences, l'agriculture vivrière est totalement déficiente au Sénégal. Alors, ils doivent importer du Cambodge, du Vietnam et de Thaïlande le riz qu'ils consomment à Dakar, à Rufisque, etc. Et il faut ajouter aux chiffres qui sont justes, que vous venez de citer, prix mondial du riz, augmentation de 53% en 3 mois, les frais de transport que les Sénégalais doivent aussi payer. Et le baril de pétrole est maintenant à 110 dollars.
Restons sur le Sénégal, vous venez de citer. Le Sénégal exporte ses arachides, ses cultures vivrières, son agriculture vivrière
périclite.
Alors tout ça... On a l'impression que ce sont des calamités, ce sont des phénomènes naturels. Et pas du tout, c'est de la politique, c'est des décisions politiques. Expliquez-nous pourquoi, dans quelle mesure, il s'agit de politique.
Bon, il y a un fait meurtrier premier qui est la dette extérieure des pays les plus pauvres, qui était, pour les 122 pays dits en voie de développement, qui était de 2100 milliards de dollars au 31 décembre dernier. Pour beaucoup, beaucoup de pays sahéliens ou centra-américains ou Haïti ou la Mongolie ou le Bangladesh, etc., c'est un vrai garrot, un vrai garrot. Tout ce qu'ils peuvent gagner, un peu avec l'exportation de la jute pour le Bangladesh, etc., va dans le service de la dette, dans les mains des banques du Nord ou du FMI, sous forme d'intérêts et de tranches d'amortissement à payer. Alors, ces pays-là, les plus pauvres, dépendent à cause de leur dette totalement du Fonds monétaire international, qui administre ses dettes sous forme de ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire périodiquement, les corbeaux noirs de Washington arrivent...
Les corbeaux noirs
de Washington. Enfin, je dis ça, oui, mais c'est un peu ça, parce que je les ai vus sur place avec leur costard noir à Niamey, sortir de leur Mercedes, etc. Arrivent à Niamey, à Bamako, au Bénin, où... à Ulaanbaatar, où je les ai vus aussi, en Mongolie, ou à Guatemala, et dicte au gouvernement local, dicte vraiment, un plan d'ajustement structurel, dit vous devez faire ça, 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 pour que nous puissions recommander aux créanciers un rééchelonnement de la dette ou un refinancement de votre dette, etc., etc. Et dans ces plans d'ajustement structurel, il y a un élément qui est permanent, c'est la priorité accordée à l'agriculture d'exportation.